Radio Libertaire 89.4. Oui, Radio Libertaire.
Yes, 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 yes. Bonjour à toutes et à tous. Exception faite à la personne qui a tout foutu en l'air dans le studio. Je ne te dis pas bonjour, vraiment pas du tout.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Aujourd'hui, c'est le Ferry Club, c'est la deuxième partie de l'entretien avec Mathieu Ferré, Patrick Ullmann, Alaric Perrollier. Tout de suite à suivre dans le Ferry Club sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste.
On se bat. Hey.
De l'albuplast et des bretelles de faux dollars, de vrais bijoux. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des oraisons pour dentifriches et des chiens nourris qui parlent anglais. Et les putains à l'exercice avec leurs jeux qui font des frais, des faux tableaux qui font la gueule. Et puis des vrais qui leur en veulent. Des accordéons déployés qui soufflent un peu avant de gueuler. Des filles en fleurs, des fleurs nouvelles et des illustrés à bonnes d'enfants. Et des enfants qui font les belles devant des mecs bourrés d'argent. De l'avenue font un vacarme dans les cœurs à faire se lever le bonheur. Des fois qu'ils pousseraient dans les rues les faux poètes qu'on affiche et qui se meurent à les mystiques, les vedettes à nez refait, parole de Léo Ferré. Les prix concours que l'on égorge, les gorges chaudes pour la voix, les coupes fil et les soutiens-gorges avec la notice d'emploi, des chansons mortes dans la cire et des pick-up pour les traduire. Micro-sillon, Bayeux, Corneille, c'est tout Mozart dans une bouteille, le sang qui coule plein à la une et qui se caille au mot croisé. François, le monde et la fortune devant des mecs qu'on pas bouffé. Hé hé. Les vitrines de l'avenue font un vacarme aux alentours à faire se lever l'amour. Des fois qu'on le vendrait au surplus. Des Pères Noël, grandeur nature, qui ne descendent plus que pour les parents, pendant que les gosses jouent les doublures, en attendant d'avoir 20 ans. Toupie qui tourne au quart de tour, bonbon fondant, au bonheur du jour, et ces mômes, canon plein les bras, à lécher la vitrine comme ça, des soldats de plomb qui font du zèle, des poupées qui font la vaisselle. De drôles d'oiseaux en équilibre, pour amuser les tout-petits à l'intérieur, la vente est libre, pour ceux qui s'ennuient dans la vie, des merveilles qu'on peut pas toucher, devant des mecs qui peuvent. Entrez. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les yeux à rendre aveugles tous les gueux. Des fois qu'ils en auraient trop vu. Jambon d'York, garantie Villette. Des alcools avec étiquette. Crème à raser les plus coriaces. Le poil se lasse. La gaine qui fond sous les caresses, le slip qui rit, le bac en caisse, l'escarpin qui use le pavé, les parfums qui sentent le péché, des falbalas pour la comtesse, des bandes en soie pour pas que ça blesse. Du chinchilla, de la toile écrue, il faut vêtir ceux qui sont nus, des poulots verts si vrais qu'ils pèlent, des vins si vieux qu'ils coulent gaga, des décorations qui étincellent devant des mecs qui n'en veulent pas. De l'avenue, c'est mes poches à moi quand je rêve et que j'y fouille à main perdue des lambeaux de désir qui lèvent.
Ah
Ah oui, une fois, il avait fait un concert, c'est ma mère qui a ressorti la lettre l'autre jour, ça m'a fait rigoler. Un gars qui a un magasin de chaussures à Toulouse, donc qui écrit à Léo, et qui dit « Cher Monsieur Ferré, voilà, la suite de votre concert, donc c'était je crois en 71 ou 12, suite à la, votre concert de Toulouse, telle date, voilà, où vous avez rameuté toute une bande de déméchés, d'excités, voilà, voilà, des jeunes qui est. Ma vitrine a été brisée. voilà, donc voilà, si je joins la facture de vitrier, merci de me rembourser.
C'est incroyable. Mais Léo lui a répondu, non ?
Je sais pas. J'ai la lettre du gars. Léo a gardé la lettre du magasin de pompe de Monsieur Leblanc de Toulouse. Ouais, puis vos vitrines. Quand il faisait vitrine aussi dans les années 80, à un moment. Il y avait une marque de... Je ne sais pas, je suis assez près du micro, ça va ?
Oh, parfait,
impeccable. Il y avait, et ça n'existe plus d'ailleurs, mais la Mammouth, les supermarchés Mammouth, ah, oui. Qui faisaient une pub Mammouth écrase les prix.
C'était quoi, ma slogan ? Oui, c'est ça.
Mammouth écrase les prix.
Avec une fameuse contrepétrie, oui. Mamie écrase les proutes.
Bon, ah cool. Ouais, ça ah, je ne oui. La connaissais pas. Ça. En tout cas, donc, c'est ce truc, Mammouth écrase les enfants. Pardon. Et donc Léo, quand il faisait donc, un moment, dans les années 80, il faisait vitrine au piano. Il se mettait là, il faisait vitrine. Et puis après, à la fin, il disait, voilà, Chalon-sur-Saône, dans un magasin Mammouth, deux petites sœurs ont volé un soutien-gorge. Mmh. Enfin, j'arrive jamais à te raconter ça. Tu la connais, toi ?
Ouais, j'ai entendu, ouais.
Mais vas-y, finis.
Non, non, mais je t'en prie, je parle plus.
Et donc, ils ont le flic a gardé la plus petite ou la plus grande.
Tant qu'elle est chez ses parents.
Elle s'est noyée dans le... Ouais.
Elle n'a pas osé aller voir ses parents. Et puis, ouais.
Elle s'est noyée dans la rivière et puis Léo il disait voilà, Mammouth écrase les prix et les enfants. C'est une belle satisfaction de savoir qu'aujourd'hui ça existe plus, cette saloperie. Quoi.
Bah, il y a d'autres qui l'ont remplacé.
Ouais. Oui, bon, mais voilà.
Un soir à...
Vous la connaissez cette histoire-là ?
Oui, oui, absolument. Il y a un soir à l'Olympia où justement il chante Vitrine et c'était peu de temps après l'attentat de chez Fauchon.
Ah oui.
Alors. Immédiatement dans la salle, salaud, Fauchon, opportuniste. Ils ont pensé qu'il venait de créer cette chanson parce qu'il y avait une bombe chez Fauchon. T'as envie de te lever, de gifler tout le monde.
Mais ça ferait beaucoup de paires de gifles.
Vraiment. Oui, mais le problème, c'est que Léo, après, lui, presque il pleure parce que.
Ils
sont incompris en même temps.
C'est pas possible.
Ça fait 40 ans que je chante une chanson, les types semblent la découvrir.
Surtout. Léo opportuniste, il y a un truc qui n'a jamais été, c'est bien ça. Parce qu'il a quand même pas bouffé beaucoup plus longtemps que...
Hein ouais, ouais.
S'il était opportuniste, il aurait bouffé beaucoup plus. Hein. Ouais, donc c'est intolérable, simplement.
Et puis il y a des chansons qu'il a gardées à son répertoire du début jusqu'à la fin. Je pense notamment au premier disque avec le bateau espagnol, la vie d'artiste et tout ça. Et si tu vois, par exemple, Paris Canaille, qui a été probablement un de ses plus gros succès, entre guillemets, économiques, on va dire, ou de renommée, même à l'étranger, c'est
joué. Il y a un cabaret à Tokyo.
Voilà, c'est beaucoup. Ouais. C'est un peu Paris Canaille, c'est un peu rentré dans l'espèce d'imaginaire collectif, guinguette, baguette, ouais. Paris,
folklore parisien,
accordéon, folklorique. Les gens, même, voilà, ça passe dans les bateaux mouches, ils entendent ça, mais ils ne savent même pas, voilà, ils ne prennent rien, quoi. Et donc voilà, mais Paris Canaille, il l'a faite, voilà, quoi, les 2-3 ans dans son au moment où c'est sorti. Joli Môme, il l'a faite l'année où c'est sorti, en concert, je parle.
Oui.
En concert, point. T'as jamais vu chanter Joli Môme en concert, toi ?
Non.
T'as vu quand la première fois, Léo, en concert ?
La première fois, Léo, en concert, 58.
Ah oui, donc.
Non, moi, je viens. Après, 62, donc, 62 au Vieux-Colombier.
Donc, oui, déjà, il la faisait plus, probablement. Il la faisait. Il la faisait déjà peut-être plus, déjà, en 62.
Non, je crois qu'il l'a chanté dans un Bobino plus tard.
Ah oui.
Oui.
Ah bon.
Oui, 65 ou 67, il a chanté.
Enfin, voilà, c'était très anecdotique le fait de reprendre, par exemple, Joli Môme. Et la même chose pour cet extra. C'est des chansons qu'il a fait en un gros succès, et bien après, voilà. Et par contre, le bateau espagnol, ou Vitrine, ou La vie d'artiste, ou L'île Saint-Louis, ou je sais pas, les premières chansons du premier disque Chant du Monde.
Parce qu'Afandrier, il a chanté très longtemps.
Voilà, il l'a repris tout le temps, et jusqu'à 90, au TLP de Jazzy, dans les derniers concerts, voilà quoi. Seule exception dans les groupes, parce qu'il faut savoir quand même que, peut-être que je vous savais pas, je vous annonce, Léo Ferré a écrit 4 chansons. C'est tout.
Avec le temps.
C'est extra, joliment, Paris Canaille, basta. Ouais. Parce que c'est ça dont on parle. Ouais. La plupart des gens, c'est ça, quoi. Donc, bon. Sauf avec le temps où là, il a effectivement après repris, parce que sûrement il devait considérer sur un autre niveau, même personnel, la chanson avec le temps, que Joli Môme ou C'est Extra. Quoi. Il était probablement plus attaché à cette chanson-là qu'à d'autres.
Bien sûr.
Ouais. Bref. Bien voilà.
Patrick, vous êtes Patrick Ullmann.
Oui, mais si tu me tutoies, je me sens mieux quand
ouais,
même.
Ouais, ça ne te dérange
je
pas.
Je veux dire que je fais partie des vieux, très très vieux copains, même. Mais voilà. Patrick, ça me semble.
Bah écoute, avec grand plaisir.
Tu es dans le coup, quoi.
Ouais, carrément. Voilà. Mais donc, tu es photographe, tu le disais tout à l'heure, et tu as suivi Léo pendant de nombreuses années.
À la connaissance de Léo, 10 ans.
D'accord.
J'avais fait déjà des choses avant, mais. En compagnonnage pendant 10 ans.
Tu l'avais déjà vu en concert avant ouais,
depuis d'être 50, son compagnon. Depuis 58 ou 59.
Toi, t'as dit 58, après. Moi
mais je sais plus si c'est 58 ou 59, le Bobino.
Bobino, 58.
58, voilà. Première fois, après 62 au Vieux-Colombier. Un souvenir incroyable. Ça, ouais.
En tant que spectateur ou en tant que photographe déjà, à ce moment-là?
Faux photographe.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que je m'étais fabriqué une carte de presse. C'était pas très crédible. Vu l'âge que j'avais et l'allure que j'avais, mais qui me permettait de rentrer dans les concerts que je ne pouvais pas me payer.
Voilà. C'est super.
Exceptionnel, ça.
Ah ouais. Et c'est comme ça que je me suis pointé au Vieux-Colombier. Mais je n'ai pas pu rentrer à la première partie au récital. Ils ne m'ont pas laissé passer à la première partie.
La première partie, c'est-à-dire, c'est quoi?
C'était Léo. Il y avait un entr'acte.
Ah.
Au Vieux-Colombier, il y a un entr'acte.
Léo. Ah, la première partie, je croyais un autre artiste.
Ah non, oui, non. Léo. Et j'ai essayé de passer, on m'a dit non. Et je suis allé dans un café à côté du Vieux-Colombier. Et alors, incroyable, le récital était retransmis sur France Inter. Ça, c'est très étonnant.
Ah ouais, ouais.
Et donc, j'écoutais le récital. Et puis, à l'entracte, je me suis repointé avec ma carte de presse. Mais il y avait tellement de gens qui étaient sortis boire un coup qu'on a laissé rentrer. Voilà. Et c'est un des chocs les plus violents de ma vie de beauté, de... Parce que le Vieux-Colombier, c'est une très jolie petite salle.
Elle existe toujours ?
Elle existe toujours. Oui, c'est classé, hein, l'architecture en bois. Ça ressemble à un bateau à l'envers. Voilà, et c'est là que je l'ai vu la première fois. Que je n'ai pas osé aller près de lui parce que... bon, il y avait l'espèce de légende hein, du couple Madeleine-Léo. Hein, et, il fallait être adoubé par Madeleine pour pouvoir faire quoi que ce soit. Hein. Ouais. C'était... Voilà, donc j'ai pas osé y aller. J'ai pas rencontré Léo à ce moment-là.
Et ça s'est fait en quelle année, du coup?
62.
La rencontre? Non, la rencontre, ça
ah s'est fait au Colombier. La rencontre avec Léo, c'est 7 ans après. C'est...
D'accord, ouais.
Mais j'étais allé le photographier.
Il fallait plus s'allonger sur le paillasson.
J'étais allé le photographier.
Quand il fallait plus s'allonger sur le paillasson, t'as pu voilà. avoir accès à Léo.
Mais exactement.
Mais c'est ça, mais oui.
C'est absolument. 65,
je suis méchant, hein.
J'ai fait des photos à Bobino. 67, j'ai photographié tout le récital,
ah ouais,
qui était éblouissant.
Ouais, ouais, j'imagine.
Ça, vraiment. Et en 69, j'ai osé l'aborder.
Et avant ça, tu avais essayé du coup d'aller voir Léo par Madeleine ou par quelqu'un d'autre ou...
Non.
T'osais pas du tout.
C'était
du tout,
la
quoi.
Terreur. Ah ouais. On pouvait pas approcher. Elle aurait dit un seul mot et t'étais fusillé. Enfin, c'était ce qui régnait.
C'est hein. Patrick qui parle.
Ah ben oui, non, mais vraiment, voilà. Et c'était décevant parce que nous, les gamins, les auditeurs, je dis les gamins, on avait 17 ans, 18 ans, 20 ans. Il y avait Léo et Madeleine, c'était Tristan et Iseult. Hein, on nous avait raconté ça comme ça, quoi. C'était.
Et c'est qui vous l'avait raconté?
La rumeur publique.
François, ah ouais. Peut-être.
Et les journalistes, il y avait des critiques. Pas des critiques, des comptes rendus avant le spectacle où Madeleine était là, c'est tout. Elle ne mettait pas des pantoufles pour chanter, pour avoir mal aux pieds. Ouais. Il y avait voilà cette espèce de dragon qui protégeait un peu ça.
Ouais. Voilà, du coup, en 69, ça se fait comment?
En 69, c'est pas une émission sur moi, donc ça risque d'être un peu
c'est
long.
Chouette, ouais. Non, mais voilà le chien. Au contraire, je suis décoliérisé. Et puis Patrick a pu l'avoir.
En 69. J'avais abandonné la photo, très jeune quand même. J'ai fait la photo pendant 2 ou 3 ans et après j'ai abandonné. Parce que ça ne marchait pas, parce que je ne pouvais pas y arriver, parce que... Et j'avais même plus un appareil photo, j'avais plus rien du tout. Et en 69, je vais au spectacle de Bobino. Donc, juste après mai 68. Sans appareil photo, je vais voir le spectacle. Et là, j'ai souffert mille morts de ne pas être photographe à ce moment-là. Quoi. C'était insupportable. Je ne pouvais pas ne pas fixer ça. Alors, bien que très pauvre, je suis allé louer un appareil photo et je me suis pointé à Bobino avec un appareil photo. Et Maurice Fleury, il s'appelait Fleury, régisseur de Bobino, qui avait été à l'école Madeleine pendant des siècles et qui me connaissait. Il m'avait vu avant. Il m'a dit, non, ça, je ne peux pas vous laisser rentrer parce que on ne peut pas approcher Léo. Quoi. C'est pas, vous ne pouvez pas. Il faut demander à son secrétaire. C'est Maurice Fro qui dira si vous pouvez ou si vous ne pouvez pas. Et là, je me suis senti très fragile, très... ouais, et heureusement, funérable. J'avais quelques tirages de photos de Léo que j'avais fait en 67 et 65 quand je me croyais encore photographe, avant que j'arrête. Et j'avais donc deux ou trois tirages et je me suis dit, je vais présenter ça au secrétaire parce que sinon, je viens avec un appareil, je suis qui, je suis quoi.
Petite légitimité, quoi, en quelque sorte.
Exactement. Ouais. Et je donne ça à Maurice Fro, que je connaissais. Il prend les photos, il me dit, tu sais, Léo, il n'aime pas trop qu'on fasse des photos, il n'aime pas trop qu'on l'emmerde. Mais gentiment, hein, affectueusement. Il me dit, je vais montrer à Léo, puis tu verras bien, quoi. On verra. Et donc, je reste dans le couloir, là, derrière, près des loges. Ça dure 4 minutes. Au bout de 4 minutes, la porte de la loge s'ouvre, et je vois sortir Léo. Et là, je crois pas vraiment en Dieu, mais c'était quand même Dieu qui arrivait près de moi, là. C'est un truc pas croyable. Il avait une chemise pied de poule, noir et blanc. J'ai rien oublié. Il avait les cheveux assez courts encore, et il était brun. Et il vient vers moi avec les photos, et il me prend dans les bras. Ah. Et il me dit, c'est formidable. Voilà. Jamais on m'a photographié comme ça. Alors, est-ce que tu veux travailler avec moi? Tu veux travailler pour moi? Et on va faire un livre ensemble. Voilà. Moi qui avais abandonné la photo, quand même.
Ah, déjà, à ce moment-là, il t'a dit de faire un livre ensemble.
Ah oui, ah ouais. C'est pour ça que c'était tellement important pour moi, ce livre. Ah, c'est que la première parole de Léo, ah ouais, ça va être, on va faire un livre ensemble. Alors, après, j'avais loué mon appareil pendant 8 jours. Donc, pendant 8 jours, je suis venu tous les soirs faire des photos de Léo. Je connaissais un petit labo dans une maison de jeunes et de la culture, et j'allais, après le récital, dans le labo de la maison de jeunes et de la culture, faire des tirages. Des petits tirages. Et le lendemain, j'apportais une flopée de tirages à Léo. Après, il me disait, mais t'es fou, arrête, tu vas pas me filer comme ça sans arrêt. Et il m'a dit, je te dis qu'on allait faire un livre, mais pas sur ma tronche. On fera un livre ensemble, mais pas sur ma tronche. On va pas faire 300 fois ma tronche. Et puis, il commence à parler avec moi. Il me dit, mais et tu fais quoi? Et comment tu gagnes ta vie? Et je dis, ben, je la gagne pas, j'ai abandonné la photo depuis longtemps. Il me dit, comment t'as abandonné la photo? C'est pas possible. Je vais te présenter des gens et tu vas faire de la photo parce que c'est ton métier, tu feras rien d'autre. Mais vraiment très péremptoire, quoi. Et un soir, il me présente un monsieur en me disant, voilà, je te présente Richardson. Et Richardson, c'était Richard Marsan. Et il dit devant moi à Marsan, voilà, alors, tu vois bien. Parce qu'il va t'amener les photos et la couverture de l'album Bobino, c'est lui. Alors pour quelqu'un qui avait abandonné la photo et qui croyait ne plus jamais en faire, voilà, ça a été... Donc Léo m'a remis photographe et j'ai arrêté de travailler dans une boutique où je vendais des appareils et je me suis lancé comme photographe. Et là, Marsan, qui était donc le directeur artistique, m'a aidé beaucoup parce qu'il était aussi le directeur artistique d'Aznavour, qui connaissait beaucoup de monde chez Barclay. Ben forcément, il travaillait là. Et donc, il m'a fait travailler. Voilà. Mais si je suis photographe aujourd'hui, je peux dire vraiment... sans Léo, peut-être ce serait arrivé, je ne sais pas. Mais peut-être je serais resté à travailler dans ma boutique comme un malade, employé à me faire chier sans faire d'image. J'avais besoin que quelqu'un qui avait pour moi l'importance de Léo me dise qu'il fallait que je fasse ça et pas autre chose, quoi.
Rappelle-toi, il y avait quoi? Qui? Il y avait des oiseaux troubles. Le hibou, écoute-le, écoute-le. Il chante. Dans la forêt, il chante, il parle aux arbres, écoute-les, il s'écoute, écoute les arbres. Ah, il y avait des dessins fantastiques, illustrant mes désordres intimes, les désordres de tous les gens, de toutes les bêtes, de la matière aussi, qui survivait dans ces maléfices du jour, porté à point levé devant les infortunes des survivants de l'horreur, du carnage, de la langueur du quotidien. Il y avait des traces de bonheur et d'ivresse conjuguées dans les temps présents et de préférence à l'impératif. Sois toi, tu n'es que toi. Trouble les porte-paroles habituelles et commandées par le pouvoir et l'habitude et l'inquiétante déraison de qui se croit prisonnier, meurtri, alors il ne suffirait que d'un envol, d'une science inventée et immédiate pour que tout chante et tout s'enchante. Et où cela s'est-il passé? Partout, dans ta voix, dans ton cœur, dans tes larmes de joie, dans ton sourire, au bord du crépuscule, quand les couleurs ne sont plus des couleurs, mais un semblant de cohésion entre ma complaisance et ta solitude. Alors, ces mots que tu régis, ces idées qui te font la plus belle et la plus secrète des femmes de la nuit blanche avec des signes dans la voix, le noctambule qui s'en va dans les rigoles de l'inerte, le nyctalope qui surgit tout à coup, le soleil en mémoire, le couvre-feu pour qui a peur, pour qui va perdre, pour qui s'endort, la tombée de la nuit, ta tombée, comme une oraison du bien et du mal, ensemble, de connivence, et dans le sang, ou dans le stupre, ou dans les larmes de musique, ou de ces rues vaillantes encore, et que désertent les clients de la bourgeoisie inquiétée, solitaire. La polaire là-haut, qui s'enivre, et qui poursuit les mirages de rennes, de papillons aussi qui ne s'ouvrent qu'à toi, et sur la flamme que tu veux bien admettre, les ténèbres petites, quand la passion descend plus bas que le courage, quand s'immolent debout les désastres de ta pensée de vierge et de putain farouche à la fois, dans l'oasis là-bas fortuit, et ces chameaux en aqueduc. Et tes sortilèges, je ne sais plus, que des bribes, que l'aube prend plaisir à me voler pour raconter le jour des histoires, à dormir debout. Qu'en as-tu fait de tes sortilèges? Dis! Il n'était pas à moi, mais dans la tête de mes amoureux solennels et mystiques. Mais tu les as donnés, même s'ils n'étaient pas à toi. À qui les as-tu donnés? Dis! À toi, quand tu dormais. C'est pour ça que je tremble. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que, partout, même en enfer, il fera nuit.
Donc tu l'as suivi pendant 10 ans. Tu allais partout, évidemment. Enfin,
pas dans toutes les villes, mais dans un certain nombre de villes, oui.
D'accord.
Y compris après la rupture avec Barclay, ça, jusqu'en 76 pratiquement.
D'accord.
Voilà.
Bah, il n'y a plus rien, la pochette, il n'y a plus rien. C'est Patrick, par exemple.
Ah ouais.
Oui, ça, ça a été un truc extraordinaire parce que on parlait de ça avec Mathieu il y a une semaine. J'ai fait cette photo le soir de la générale de Gala,
ouais.
Où le tout Paris est invité. Le tout Paris, pour Léo, c'était assez réduit quand même. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de stars qui venaient au récital de Léo, mais il y avait quelques fidèles.
Léo, il avait Cosimon.
Ouais.
Bah. Oui, avec Cosimon, il y avait une actrice qu'il adorait, qui s'appelait Nicole Courcel.
Ah oui.
Ah ouais.
Oui.
Aragon.
C'était, hein,
oui, pas tout le temps.
Pas tout le temps. Mais...
Qui?
Aragon. Aragon. Oui, il a été une quelque
chose. Aragon à l'Olympia en 73, je ne le revois pas.
Non, mais pas non avant.
Avant, oui. Ah ben, au Vieux Colombier, oui, on ne voyait que Aragon et Elsa qui étaient là. Hein. Enfin bon, je ne sais plus du tout ce qu'on disait. Oui, donc, ce soir de gala, Il y a 40 photographes quand même. Qui...
Ah oui, ouais, mine de rien, d'accord.
Pour tous les artistes, ils ne savent pas qui chante d'ailleurs, ils s'en foutent.
Ouais.
Eux, ils sont là, pour, on leur, ils viennent pour le journal, ils appuient sur un bouton, ils font des photos. Et Léo en balance, il n'y a plus rien. Au public estomaqué, parce que quand même, il n'y a plus rien à balancer à un public de général où 50% des gens ont la Légion d'honneur à la boutonnière.
Et le visant sur les épaules.
Et on leur envoie ça, ça fait bizarre.
Ouais.
Il n'a pas fait un triomphe d'ailleurs avec. Il n'y a
non.
plus rien.
Hein. Ah ben non, mais oui. Ouais, ouais, ouais.
Même. Il se trouve que j'étais devenu entre-temps photographe de l'Olympia. Donc hein, j'avais d'accord. quand même un grand éventail. L'Olympia et Bobine et Léo, c'est pas tout à fait. Mais c'est comme
ça.
C'est
pas une histoire d'amour.
Non. Ouais. Et quand il chante, il n'y a plus rien. Quand tu vois, on dit il chante. Hein. On dit
mais
pas.
Moi, je dis il chante. Aussi, parce qu'il chante. Parce qu'au moment, il récite, et puis à un moment, il chante.
Ben, il y avait Cocatrix, parce qu'il était là, Cocatrix, bien sûr, qui n'était pas non plus le meilleur ami de Léo, et qui se frottait, il se frottait sévèrement la Légion d'honneur, quand même, hein, Cocatrix. Parce que... il se l'est entendu, hein, ce rouge dont vous avez la nausée pour près votre... Comme ça, après, il m'a dit, il y va fort, hein, votre ami, quand même. Bon, enfin donc, il y a 40 photographes en train de mitrailler. Moi, je ne mitraillais pas parce que je n'avais pas beaucoup de sous, donc pas les moyens d'acheter beaucoup de pellicules. Donc, quand je mitraillais, quand j'appuyais, c'est que j'étais à peu près sûr de faire une photo intéressante. Et je photographie donc ce texte qui fait 12 minutes, 11 minutes en scène.
Ouais.
Où l'éclairage ne bouge pas. Il a un projecteur sur lui. Léo est planté devant le micro et ne bouge pas. Il a les bras comme ça. Et je vois, je ne travaille qu'en noir et blanc, hein. Et je vois dans mon viseur une photo en couleur verte, dorée, bleue.
Dans ton imaginaire, on va dire. Dans ta vision de photographe.
Oui, quand j'appuie dessus, je vois, ça me saute aux yeux, quoi. Voilà. Clac. Et je fais que du noir et blanc.
Ouais.
Dès que le récital était fini, je suis descendu dans mon labo, parce que j'avais mon labo, ça fait très privilégié, mais sous la scène de l'Olympia, quand même. Donc je vais dans mon labo, je développe la pellicule, et là, une fois encore, cette image me saute aux yeux, donc un négatif noir et blanc, hein. Et j'en fais un tirage papier, que je passe dans des produits chimiques pour y mettre de la couleur,
ouais.
qui vient s'additionner au noir et blanc, et qui met les couleurs de la pochette d'Il n'y a plus rien.
Et c'est comme ça qu'est née la pochette de...
Elle est née comme ça, le lendemain je viens montrer ça à Léo, il y avait Léo dans la loge, il y avait Maurice Fraud, il y avait un certain nombre de personnes, et ils sont plutôt réticents pour cette photo-là.
C'était le côté graphique, du coup, qui les...
Les couleurs, qui étaient
ouais.
un peu...
Flashy.
Criard, pas tant ça, en plus. Mais...
Si, quand même, c'était un bleu-vert un peu fluo, c'était un peu...
Un peu psychédélique, limite.
Oui. Et j'avais d'autres photos moins intéressantes. Et j'ai compris, mais bon, c'est un peu... méchant de dire des trucs posthumes et pas très très gentils, quoi. Mais il y avait Maurice Fraud, donc le secrétaire de Léo, qui m'aimait bien mais qui m'aimait pas trop parce que sa copine était photographe. Donc il y avait un conflit d'intérêts, quoi. Et Marsan était là, Richard Marsan, donc le directeur artistique de chez Barclay, qui dit c'est la pochette, il n'y a plus rien.
Évidemment.
En voyant la photo. Et Léo qui fait, oui, t'as raison, c'est la pochette, il n'y a plus rien. Et Maurice Fraud commence à dire, oui, moi je trouve que peut-être c'est pas exactement ce qu'il faudrait. Voilà, mais ils ont tenu bon, et cette photo est devenue emblématique quand même. Je sais pas si c'est une des plus... Mais en tout cas, c'est une des plus connues. Des
c'est
plus...
iconique.
Avec la pochette de la solitude aussi, que j'ai découvert, justement, Patrick m'a raconté il n'y a pas très longtemps cette histoire-là. Bon. Mais oui, que oui, la photo, quand même, tu as participé
plus que participer.
Voilà, quoi.
C'est une co-création.
Voilà. Oui, voilà. Bon, enfin, pour moi, Et il y a la pochette de Ebasta que j'aime beaucoup aussi, et qui est liée pour moi à un moment magistral avec Léo, quoi.
Que tu signes aussi la pochette de
Ebasta. Oui, c'est un corbeau.
Ouais.
C'est la photo d'un corbeau avec un œil comme un œuf au plat.
Avec des couleurs qu'on retrouve d'ailleurs un peu.
Oui, un peu. Et là aussi, c'est une drôle d'histoire parce que. À un moment, dans Et basta, Léo dit, je suis un vieux corbeau qui court...
Après sa corbotte.
Après une corbotte. Et je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui m'a... Je suis rentré comme d'habitude, à mon labo. Et je dis, non, là, on ne peut pas mettre une photo de Léo. Il faut autre chose. Et je suis parti au magasin Derol louer un corbeau empaillé. Et j'ai fait la photo en me disant, Léo va pas vouloir, quoi. J'étais sûr qu'il allait me dire non, quoi. Et le lendemain, je retourne au studio où on enregistrait, et basta. Et Léo, regarde la photo, il me fait, je la prends là. Et il s'est mis à pleurer, vraiment. Et on a fait la pochette de et basta. Qui est pour moi un truc un des plus forts parce que parce qu'il y a même pas sa tête, ça a dépassé l'emblème et c'est plus loin que ça, quoi. Voilà. Et c'est, je suis resté 8 jours, hein, pendant l'enregistrement de Basta. C'est un moment privilégié parce que d'habitude Léo enregistrait dans des grands studios parce qu'il y avait les musiciens de chez Barclay, il y avait des grands studios et un tout petit, et le studio de où on a fait Basta, il est grand comme ça, quoi. Et j'ai 8 jours en osmose complète avec Léo. Ses amis l'avaient quitté à ce moment-là. Il n'y avait plus l'équipe derrière. Il n'y avait plus Fro, il n'y avait plus Castagnier, il n'y avait plus personne, quoi. Et j'étais finalement très content que tout le monde soit parti. Parce qu'on s'est retrouvés...
Je te comprends, oui.
Vraiment, dans un cocon où... Alors, apparaissait de temps en temps Chantreau, qui venait faire un peu de percussion.
Ouais. Mais autrement, Richard.
Richard était derrière sa vitre, bien sûr. Richard était là. Et très présent, je veux dire, vraiment très, très bien, quoi. Mais c'est un moment d'une force, ça, c'est cette semaine-là, l'enregistrement de Basta, incroyable. Et puis après, la vie nous a séparés.
Pour quelle raison? On peut en parler?
Si tu veux, parce que c'est une trop longue histoire, mais c'est une connerie de non-dit de l'un à l'autre, en fait.
Oui, ou de personnes interposées, peut-être aussi.
Des gens tenaient vraiment à nous séparer, quoi. Je crois que j'étais vraiment parmi les... Bon, lui, je l'ai connu tout petit à Castellina, quand même. Hein. On était très, très proches, Léo et moi. Vraiment. Et les plus belles balades de ma vie, c'est avec lui en Toscane. Enfin, c'est des moments inoubliables. Et il y a des gens qui avaient envie que... Que ça casse, quoi. Des jalousies merdiques, des mesquineries à la cour. Ouais. Voilà. Et donc, on ne s'est pas expliqué ni Léo ni moi, quoi. Voilà. Et on s'est plus, je ne l'ai plus revu jusqu'à la fin. Ça, c'était une...
Ce qui ne m'empêche pas que quand je vis à Paris, j'appelle Patrick et puis on se voit et j'aime beaucoup.
Ah ben nous, on s'est tout dit. Nous,
et je lui ai dit que ça me faisait plaisir.
On s'est tout dit.
Qu'il vienne ici avec nous ensemble pour parler de Léo, parce que je sais qu'il en parle de façon admirablement et puis très sincère et avec beaucoup d'amour.
Voilà. Donc j'ai retrouvé quelque chose de fort, là. Vraiment.
Bon, voilà.
C'est la mine d'émotion.
Ouais.
Merci.
De rien.
Comment tu relances après ça?
Je sais pas comment on peut lancer.
Vous voulez faire une pause?
Le Ferry Club sur Radio Libertaire. Merci, monsieur Patrick Hulman. Salut à toi, Patrick.
Avec nos pieds chaussés de sang, avec nos mains clouées aux portes, et nos yeux qui n'ont que des dents, comme les têtes qui sont mortes, avec nos poumons de camel, avec nos bouches sparadrap, et nos femmes qu'on monte au ciel, dans nos ascenseurs pyjama. Avec nos morales bâtardes, filles d'un Christ millésimé et d'un almanach où s'attarde notre millénaire attardé, et puis nos fauteuils désossés portant nos viandes avec os et la chanson des trépassés des jours de gloire de nos bosses. T'es rock, coco. Avec nos oreilles au mur, avec nos langues polyglotte qui magnétophonise sur tous les tons et toutes les bottes, avec nos pelisses nylon qui font s'attrister les panthères dans les vitrines du Gabon. Avec nos journaux pansements qui sèchent les plaies prolétaires et les cadavres de romans que les concours vermifugèrent, avec la société bidon qui s'anonymise et prospère, et puis la rage au pantalon qui fait des soldats pour la guerre. Cela dit, en vers de huit pieds, à seule fin de prendre date, je lâche mon humanité et je m'en vais à quatre pas.
Mathieu, j'aimerais bien te parler. On a effectivement pas mal parlé de l'œuvre de Léo jusqu'à présent, mais je voudrais bien rentrer un tout petit peu dans ton rapport intime avec l'œuvre de Léo, pas avec Léo en lui-même, mais avec son œuvre, et simplement te demander si il y a des moments particuliers de sa période de création qui te sont plus chers que d'autres, ou bien est-ce que c'est vraiment un tout pour toi et qu'il n'y a pas de segmentation possible.
La segmentation, c'est... faut voir sur quel aspect tu veux parler, de musical, de... tu peux segmenter par producteur, par période, tu peux faire plein de saucissonnage si on veut. Bon, mais je pense que Léo, il a eu un chemin qui a été assez constant. Des choses que moi, je n'aime pas particulièrement.
Tu penses à quoi quand tu dis ça?
Par exemple, La Rue, Le Guinche, ou Titi de Paris, par exemple. Il y a tout un moment, fin des années 60, 50, où il collabore avec des auteurs, par exemple avec René Rousseau, avec Albert Wilmets, avec Segers, encore passant, Segers, bon, enfin, avec toute une série d'auteurs plus classiques chansons. Donc lui faisait la musique et les autres, ils faisaient les paroles. Je pense que c'est vraiment dans une période bien, bien délimitée. Et j'ai comme l'impression que ça lui était fortement suggéré par son entourage. Tu vois, Léo, ce serait bien que tu fasses une chanson avec René Rousseau. Il a écrit pour Piaf. Alors peut-être que si tu fais une chanson avec lui, il est copain avec tel, avec machin, alors peut-être que lui peut lui porter la chanson à Piaf et la placer, la caser, etc. Je suis presque... Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois.
Et il t'a pas dit comme...
Non, vraiment, il m'a pas dit ça. Non, c'est moi qui imagine. Hein. Alors, peut-être que je me trompe, hein, mais... Après, il a écrit des choses avec des musiques, avec des poètes voilà, qu'on connaît, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire... Avec Aragon, il y a une collaboration, et puis avec Cosimon. Voilà. Donc ça, avec Cosimon, je pense qu'il y avait vraiment un vrai désir de la part de Léo de collaborer avec lui, plus que je vais faire une chanson, ah là, quand c'est fini, et ni, ça recommence. C'est désolé, mais ça, j'ai un peu... C'est pas dans mes top 5, quoi. Donc voilà, quoi. Et ça, peut-être qu'on lui a dit, bah, tu vois, si tu nous fais un peu une chanson, un peu comme si, avec lui, qui a... c'est qui a fait ça, d'ailleurs, je crois que c'est les paroles.
Oui, c'est Rousseau. C'est Rousseau, Rousseau,
ouais, voilà, c'est... voilà. Donc peut-être, voilà, alors lui, c'est l'auteur attitré de machin, alors peut-être comme ça, telle vedette va prendre la chanson, tu vois. Une espèce de... Ouais, je pense que c'est un peu...
C'est du calcul.
Un peu un calcul, quoi. Hein. Voilà. Je veux pas faire trop de noms, mais... c'est assez dirigiste, quoi.
Mais tu veux dire que c'est des chansons qui sont carriéristes, presque, du coup?
Non, mais voilà, je pense que... À un moment, effectivement, pour arrondir ses fins de mois ou pour gagner un peu d'argent, parce que pendant très longtemps, il n'en a pas gagné beaucoup et il était un peu dans la mouise, même fortement.
Voilà, et puis, quoi, et puis ça mettait compte... un peu du beurre dans les épinards.
Ça contente la maison de disques aussi. Ça contente la,
voilà, ça contente la maison de disques, l'éditeur, contrat, dois... ça contente ta femme, etc. Mmh. etc. quoi. Donc, je le ressens comme ça, moi. Après, ouais. peut-être que je me trompe, mais c'est ma vision. Donc, voilà, il y a des. Donc, il y a ces chances. Même Merde à Vauban, ouais.
C'est dur, ça.
C'est ouais, mais ça. Moi, ça me parle pas beaucoup, quoi. Je dois dire, je suis un peu. C'est, ça fait partie un peu de cette série-là, quoi. Donc, après, certaines qu'il a dû considérer un peu plus pour lui, il les a chantées, mais après, d'autres, voilà, quoi. Il y en a d'ailleurs plusieurs chansons qui n'ont jamais été interprétées, ni par Léo, ni par d'autres. Hein. Ouais. Voilà, quoi. Donc. Et puis, comme il disait, si je ne chante pas mes chansons moi-même, après, personne ne les chante. Donc, à un moment, il faut bien que je me mette à les faire moi-même, quoi. Donc, il les a faites. Voilà.
Il y a des...
Et donc, dans toutes les époques, voilà, il y a des chansons qui sont un peu plus, entre guillemets, alimentaires, ou que moi, personnellement, je trouve que si dans 100 ans, ou je ne sais pas quand, alors ce que c'est à nous de dire, est-ce que Léo va être, comment on dit...
Panthéonisé ?
Non, mais pérennisé, ou oui, comment pérennisé. On dit... va survivre, qui sera...
La postérité.
Voilà, ça va passer à la postérité. Est-ce que Léo, je sais pas, et je dois te dire, je m'en fous un peu, quoi. Tant pis pour ceux qui perdront ces trucs-là, s'ils voudront du Claude François, mais...
Mais ils ne voudront pas du Claude François.
Ils auront qu'à écouter du Claude François, ou je ne sais pas trop quoi. Mais, et je ne pense pas que ce sera pour La Rue, ou Titi de Paris, ou Quand c'est fini, ça recommence, que Léo passera une certaine... cap de temps, quoi, je veux dire. Ce sera avec, justement, ce qu'on disait, avec La Mémoire et la Mer, ou avec Le Chien, ou avec La Solitude, ou avec Le Bateau Espagnol, ou avec L'Imaginaire, ou avec À Toi, ou avec plein de choses, qui avec La Mémoire et la Mer. Ou...
Ouais. À partir du moment où il décide vraiment de ce qu'il fait musicalement. Et...
Oui, ou vraiment, voilà, quoi, c'est... Il n'y a pas de collier, quoi, comme il dit dans Le Chien. Hein, je me suis décolliérisé. Ça veut dire que, quelque part, si tu dis ça, si moi je dis j'arrête de fumer, c'est parce que avant je fumais, quoi. Sinon, je ne dis pas j'arrête de fumer. Donc, si tu dis j'enlève mon collier, ça veut dire qu'avant tu considérais d'en avoir un, quoi. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Et donc, voilà, il y a dans toutes les périodes, on va dire, grosso modo, sauf à partir effectivement de 68, à partir de 68, où là, j'ai plus de difficultés à trouver des choses. Qui me parle moins ou que je trouve voilà comme ma mère a été quelqu'un qui n'a jamais dit ou voulu dire quoi que ce soit à Léo, quoi. Léo lui disait alors t'en penses quoi, les Marie-Christine, c'est pas mon affaire, c'est ton truc, c'est toi, moi j'ai rien à dire, c'est ton métier, c'est ton travail, c'est toi le seul qui peut voilà quoi. Jamais lui a dit ah, mais non là tu vois tu devrais pas faire ci, tu devrais faire ci.
Elle ne l'aurait pas empêché, par exemple, de créer les anarchistes.
Ah, jamais. Non.
Tu me disais avant de commencer l'émission qu'il l'a écrit en 66
oui.
et qu'elle a été créée en 68, parce qu'apparemment, parce il y avait
que,
quand même des
oui,
gens...
Oui, je pense que son entourage, on va dire, je pense précisément à Madeleine, l'a tout conseillé. Justement, elle voulait... pendant longtemps, moi, c'était un chanteur qui s'appelait... qui avait fait la part de l'ange, la chanson du mal-aimé à Monaco.
Jacques Douai.
Jacques Douai. Mmh. Moi, une fois, j'ai interviewé Jacques Douai. Et d'ailleurs, Alaric, je ne sais pas où est la bande de l'interview de Jacques Douai, je suis désolé.
Parce que il va falloir classer tout ça, hein, Mathieu. Voilà.
Et donc, Jacques Douai m'avait dit que, quand il aimait beaucoup Léo, il a chanté beaucoup de chansons de Léo, mais il me dit, quand Madeleine est arrivée, moi, c'était vraiment une espèce d'imprésario... tu dois faire ci, tu dois faire ça, un peu, voilà quoi, un peu très, très, extrêmement dirigiste, probablement un peu agressive aussi avec certains interprètes. D'ailleurs, je pense que si certains interprètes n'ont pas pu chanter Léo, à cette époque-là, c'est peut-être aussi grâce à Madeleine qui était peut-être un peu trop invadente, trop rentre-dedans, trop envahissante.
Intrusive.
D'ailleurs, j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps. Madeleine a écrit un bouquin que Léo a publié. On dirait qu'on parle, je parle tout le temps de Madeleine, c'est quand même hallucinant tout ça.
Ouais, quelques instants là.
Mais tu sais, Léo, on a beaucoup parlé
voilà.
aussi.
Voilà. Hein. Donc, Madeleine a écrit un livre en 67, Le Mémoire de Magnétophone. Et après, elle en a écrit un second qui n'a jamais été publié, qui est postérieur à 83, dont j'ai récupéré une copie photocopiée, et où elle raconte toute une anecdote, notamment par rapport à Édith Piaf. Édith Piaf, donc il y avait eu la chanson Paris Canaille qui avait fortement marché. Édith Piaf, donc Léo la connaissait un peu de, quand il était à Monaco, que c'était elle qui lui avait dit « Vas-y, monte à Paris », etc. Et donc Madeleine elle-même, dans ce bouquin-là, qui est dans ce livre qui n'est jamais sorti, elle raconte que son rapport avec Piaf était assez difficile, je veux dire. Et donc Piaf est parti aux États-Unis faire une tournée, elle a dit à Léo et à Madeleine, là, ces chansons-ci, ces chansons-là, tac-tac, vous me les gardez. Parce que comment ça se passait chez Piaf, ils allaient là-bas, les auteurs, ils chantaient les chansons, et puis Piaf disait, je prends pas, ou je fais ci, voilà quoi. Donc là, Léo, ils ont fait une séance chez Piaf, et Piaf dit, voilà, je pars en Amérique, vous me les gardez, vous les donnez à personne d'autre. Et quand je rentre, je fais un disque Piaf chante Ferré. C'est quand même costaud, ça, parce qu'à l'époque, en plus, ça aurait mis pas mal de beurre dans les épinards, comme visiblement une partie du couple recherchait activement. Et alors, Piaf rentre des États-Unis. Ça, c'est Madeleine qui l'écrit dans son bouquin. C'est pas moi qui extrapole ou Léo me l'a raconté. C'est Madeleine qui l'écrit dans son bouquin que j'ai lu. Hein. Donc, c'est pas que je l'invente. Hein. Et donc, elle dit, voilà, à un moment, Piaf, elle est rentrée. Elle est rentrée des États-Unis. Elle se faisait pas trouver. On n'a pas réussi à la voir, tout ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? Paf! Elle a donné les chansons que Piaf avait dit, ne les donnez pas, je vais les chanter, à Georges Viennet, à je ne sais pas trop qui, à quelques autres interprètes. Voilà. Donc Piaf a vu ça, ça l'a mis en colère, et puis elle n'a jamais fait de disque Piaf chante Ferré. Quoi. Donc c'est assez dommageable, je trouve.
La partie du couple qui voulait qu'il y ait du beurre dans les épinards, finalement, s'est démerdée pour qu'il n'y ait pas de beurre.
Non, mais je ne dis pas que Léo ne voulait pas du beurre dans les épinards, attention.
D'accord.
Bon, hein, bien sûr. Mais voilà, quoi, et parce que sûrement il y avait une espèce d'antagonisme avec Piaf, qui avait une réputation de ci, de ça, de croqueuse.
Mais d'après ce que tu dis, il y a une jalousie, tout simplement. Quoi.
Voilà, voilà. Donc bon, alors tu, d'un côté, tu veux jouer l'entrepreneuse, la manageuse, je vais t'apprendre à chanter, je vais t'apprendre à faire un tour de chant parce que tu ne sais pas le faire. Et puis après, quand on passe à l'acte, que t'as Piaf qui te dit je vais faire un album sur Léo, sur ton produit là, ton Léo, et puis tu débrouilles pour que ça se fasse pas. C'est quand même pas très professionnel, je trouve. Moi.
Et en même temps, au début, les premières interprètes de Léo c'était des femmes.
Ça même aujourd'hui, c'est Léo, ça a été beaucoup très plus souvent, repris par les. Mais Piaf, je te signale, c'est une femme.
Hein. Oui, je sais bien, mais là, du coup, l'antagonisme, c'était pas régulier.
Oui, mais même avec Juliette Gréco, moi, elle m'a raconté quand Juliette Gréco, elle allait à Pershing et tout ça, elle s'arrangeait pour y aller pour que, quand il n'y avait pas Madeleine, parce que...
C'est vrai que c'est la confrontation.
Voilà, quoi. Bon. Bref. Donc,
et Gréco, elle était belle, en plus, tu imagines.
Bah, oui. À la différence de Piaf, qui n'était pas tout à fait appétissable, je pense. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'elle avait beaucoup de charisme. On serait tous tombés dans son plumard, mais... Bref. Donc voilà pourquoi je parle de ça, parce que voilà, des fois il a peut-être été un peu poussé, harcelé à ce qu'il fasse des choses, des collaborations avec des René Rousseau et compagnie pour faire des trucs. Voilà, quoi.
Ouais, qui sont pas ta tasse de thé.
Qui sont pas ma tasse de thé, la rue, le guinche. Voilà. Ah ouais, Paris Canaille, t'as vu Léo, ça a bien marché, tu pourrais pas nous refaire un petit Paris Canaille là, un petit truc. Et donc Léo il s'emploie, et puis des fois voilà quoi, ça. Donc, et puis souvent, il utilisait énormément l'argot dans cette époque-là. Donc je trouve qu'effectivement, il y a des mots qu'aujourd'hui, les gens n'emploient plus et que l'argot n'est pas utilisé. Donc forcément, quelque part, ça devient un peu obsolète, on peut dire ça comme ça.
C'est pas forcément dérangeant.
Non, c'est pas dérangeant. Moi, je dis pas que ça me dérange, mais je peux comprendre que certaines personnes peuvent arriver là et puis voilà. Quoi.
En fait, ce qui te dérange, c'est quand il fait de la chanson de genre, en fait. Quand il fait de la chanson, chanson quoi.
Voilà, parce que dans le fond, je pense que j'aime pas la chanson, l'histoire, le truc, le développement. Voilà quoi, l'école. Il y a des écoles pour écrire des chansons. Tu peux aller à l'école, on t'explique comment tu faut écrire une chanson. Un déroulement, une histoire, un couplet, refrain, ça revient, ça si, faut faire comme ça.
C'est de la chanson de genre, mais ça reste du Léo quand même.
Oui,
c'est une manière d'aborder la chanson.
Oui, non, d'accord.
Qui n'appartient qu'à lui, quand même.
Oui. Mais je pense que pour en revenir à la postérité, ce ne sera pas à travers ces genre d'écriture-là que ça restera. Ce sera un classique entre guillemets de la chanson, mais voilà quoi. Si Léo s'était arrêté en 65 de faire de la musique, il aurait eu un accident, il serait mort, voilà quoi. Probablement, je pense qu'on n'aurait pas du tout la même perception de Léo Ferré qu'on en a aujourd'hui.
Ouais,
parce qu'il n'y aurait pas eu toute la suite qui est venue quoi. Donc ça c'est indéniable. Et je pense que si Léo sera étudié et sera continué à être écouté, apprécié, ça donnera des émotions à des gens, ce sera justement pour tout ce qui vient, entre autres, après 68, même s'il y a beaucoup de choses que avant, moi j'aime beaucoup Vitrine par exemple, voilà quoi, c'est ce qui est sur la compilation d'ailleurs qu'on a fait avec La Souterraine, qui est un collectif qui a repris des chansons de Léo. Moi j'ai voulu justement une certaine certains titres, j'avais beaucoup plaisir à ce qu'ils soient dedans, et je voulais pas que ce soit l'énième tribute avec Joli Môme et Paris Cantruc, machin, et c'est extra, et avec le temps, etc. etc. D'ailleurs, ils y sont pas, quoi. Il y a Vitrine qui, même si, malgré le fait qu'il y ait une chanson de 1953, on en a parlé beaucoup de cette Vitrine, ça va donner envie aux gens d'aller l'écouter, probablement, malgré le fait qu'il y a quand même quelques mots d'argot, c'est tout à fait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, quand on nous remplit les yeux, on nous remplit on nous donne envie d'acheter des trucs, et puis les gens, ils n'ont pas l'argent pour l'acheter, et puis voilà, quoi. Alors après, il ne faut pas s'étonner que les gens, ils aillent casser les vitrines, mais forcément, mais allez-y, mais cassez-les, prenez ce qu'il y a dedans, et puis partez à la maison. Et puis casser la gueule aussi à ceux qui gèrent les 400 000 vitrines sous la même enseigne.
Dans le ventre des Espagnols, il y a des armes toutes prêtes, et qui attendent des oiseaux finlandais vêtus de habanères, des vikings au couteau tranchant la manzanille, des flamèches de Suède brune comme la cendre, des guitares désencordées et qui se pendent, des amants exilés dans les cloches qui sonnent, la mort qui se promène au bras de Barcelone, des taureaux traversés qui traversent l'histoire, des soleils fatigués qui les regardent boire, un orient de misère à la rote engloutie, les parfums de l'islam crevant d'Andalousie, des pavés de flamenco aux gestes anarchiques, les rythmes du jazz band pour les paralytiques, les tam-tams de l'Afrique à portée de guitare, de l'eau fraîche et de l'ombre à jurer pour y croire, une rue de Madrid avec des fleurs fanées, un fusil de 36 qui revient si près. Il y a des armes toutes prêtes, et qui attendent. Et qui attendent un accord de guitare au moment où l'on passe. Un passeur langoureux avant le coup de grâce, la bouteille à la mer dans un drugstore indien, un habit de lumière dans l'ombre du chagrin, la fureur pensionnée qui se croit dans la rue, des chansons caraïbes qu'on a perdu de vue, des cigales fuyant le bruit des castagnettes, toutes les Amériques au fond d'une cassette, exécutées à l'aube avec la stéréo. Le silence permis au-delà de Franco, des ailes de moulin plantées sur les maisons, Don Quichotte qui passe à la
télévision, une chaîne en couleur pour avaler tout ça, le sang avec la veine d'avoir la corrida et 100 000 danseurs sur la place publique pour que Christophe Colomb découvre la musique. Il y a l'espoir qui se gonfle et qui gonfle et qui attend et qui attend.
À la sociale, vive l'anarchie, prenez soin de vous, prenez soin d'elle. On se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie de cet entretien avec Patrick Ullmann, Alaric Perrollier et Mathieu Ferré. Ciao.